Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 13h. Ce journal vous est présenté par Axel Ofolenc.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, réunion du Conseil national de sécurité et visite chez le roi. Planning chargé pour Bart de Wever. Rejet des motions de censure concernant l'augmentation du prix du Minerval. Sacha Baquet sera présente en plateau. Le cinéma à la Côte à Liège. Inauguration de la plaque de Jean Reno et arrivée du Pink Screens. Le Conseil national de sécurité s'est réuni à 10h ce matin. Bernard Quintin, ministre de la Sécurité nationale, en a fait la demande. Il est préoccupé par le survol de drones qui sont survenus au-dessus d'aéroports et bases militaires belges ces derniers jours. La dernière fois qu'un CNS avait été convoqué, c'était pendant la crise du Covid. Bart de Wever vient d'arriver chez le roi. Il rend compte à sa majesté de l'avancement budgétaire, toujours épineux. Il se rendra ensuite à la Chambre pour faire un compte rendu aux députés. Pour rappel, le Premier ministre avait menacé de remettre sa démission si aucun accord sur le budget n'était trouvé avant aujourd'hui. Depuis quelques semaines, une mesure budgétaire annoncée par le gouvernement Arizona fait grincer des dents dans le monde étudiant. Et cette mesure, c'est celle qui concerne l'augmentation du prix du Minerval. Elle prévoit de faire passer le prix d'une année de 835 € à 1194. Certains partis ont réagi hier, mais n'ont pas obtenu gain de cause. Sacha Baquès.
Oui, hier, les partis de gauche qui avaient qualifié cette mesure d'antisociale ont réagi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Trois motions de censure ont été déposées par l'opposition PS, PTB et Colo. Trois motions aussitôt rejetées par le gouvernement et maire engagé.
Dès son annonce, on l'a vu, la mesure a suscité de nombreuses réactions, en particulier auprès des premiers concernés.
Oui, la FEF, la Fédération des étudiants francophones, a par exemple dès le lendemain lancé une pétition pour contester cette augmentation. Elle recueille aujourd'hui près de 38 000 signatures. Du côté institutionnel, le GREF, l'organe qui représente les recteurs des 5 universités francophones de Belgique, soulignait ce mercredi que cette hausse de Minerval ne bénéficiera d'aucune manière aux universités. Ils ont également déclaré que cette mesure vise seulement à participer à réduire le déficit des caisses de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et cette augmentation, elle touche tous les étudiants ?
Selon les chiffres du gouvernement, non. Près de 60% des étudiants paieront le Minerval plein pot, tandis que d'autres disposant de revenus plus modestes ne paieront pas ce Minerval majoré. La mesure est en fait graduée en 4 échelons. D'abord, la gratuité totale du Minerval pour les étudiants boursiers. Ils représentent environ 22% de la population étudiante. Ensuite, un Minerval réduit à 374 € pour les étudiants dits de conditions modestes. Aujourd'hui, cela concerne 1% des étudiants, mais le gouvernement souhaite porter ce chiffre à 10%. Un troisième échelon prévoit un Minerval maintenu à 835 € pour environ 10% des étudiants. Et enfin, le Minerval complet à 1194 € pour tous les autres, soit environ 60%.
Cette mesure, elle intervient dans un contexte relativement difficile.
Oui, le CREF déplore dans leur communiqué un définancement global qui durerait depuis 20 ans. Ils parlent notamment d'une perte de 3,2 millions annoncée par le gouvernement. Ils tiennent à souligner que ce définancement peut avoir des conséquences directes sur les étudiants. Les taux de réussite peuvent en être affectés, en particulier pour les étudiants de première année et ceux plus défavorisés.
Eh bien, merci Sacha Baquès pour ces explications. Le 6 novembre marque la journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire. Amélie Huppert s'est entretenue avec une institutrice de l'école fondamentale libre de Chennai pour comprendre ce qu'ils mettent en place pour lutter contre ce type d'intimidation.
Stéphanie Clous est institutrice en 4e primaire. C'est aussi elle qui gère la bulle, la cellule de bien-être de l'école. Elle a été formée à la méthode de la préoccupation partagée par RESIS, l'association de lutte contre le harcèlement.
On va responsabiliser et les intimidateurs et les témoins qui ont leur rôle clé, en leur mettant en évidence, en leur disant en fait qu'on est inquiet pour la cible, pour la victime. Et en fait, on va les responsabiliser, on va leur permettre de changer de rôle, parce que très souvent, les personnes, les intimidateurs, parce que c'est comme ça qu'on appelle les harceleurs, s'enferment un peu dans un rôle pour différentes raisons, et parfois ils sont bien volontaires d'en sortir.
Une méthode efficace pour sensibiliser plusieurs intimidateurs potentiels face à une cible, mais elle est moins certaine dans d'autres formes de conflits.
On se rend compte que parfois, les enfants ne s'expriment simplement pas par rapport aux autres, et qu'une simple discussion avec les différents protagonistes, en étant là pour faire de l'écoute active, va vraiment permettre de désamorcer la situation.
Stéphanie Clous souligne qu'au cours d'une scolarité, un enfant peut avoir été intimidateur et par la suite devenir cible. C'est encore plus le cas quand il change d'école.
En Hongrie, le quotidien Blick a été racheté par Miklós Vasili, proche de Viktor Orbán. Très populaire, Blick était connu pour dénoncer la corruption du régime à ses 3 millions de lecteurs, près d'un tiers du peuple hongrois. À 6 mois des élections, ce rachat est idéal pour le président Orbán. Il s'inscrit dans sa politique affirmée de se débarrasser des médias étrangers, critiques du pouvoir en place. Toujours à l'international, c'est historique, il n'y a jamais eu de shutdown aussi long aux États-Unis. On entre ce jeudi dans la 37e journée de blocage budgétaire. Pour rappel, cette situation politique est un arrêt des activités gouvernementales dû à un manque de moyens. Le Congrès ne parvient pas à trouver un accord pour allouer suffisamment de fonds. Résultat, l'administration fédérale cesse toute activité, sauf les services dits essentiels. Personnel hospitalier, militaires, agents fédéraux et contrôleurs aériens sont contraints de travailler. Le tout sans être payés. Un sujet de Simon Loire.
Le précédent record remontait à 2018, nous sommes en 2025 et une similitude, la présidence de Donald Trump. Pour Jérôme Jamin, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège, le président républicain n'est pas innocent face à cette situation.
Donald Trump est quelqu'un de clivant, donc si jamais il y a un problème au niveau du relèvement du plafond de la dette, il ne va pas dire que c'est un problème qui concerne tous les Américains. Il va dire que c'est de la faute de ses adversaires, à savoir les démocrates. Il va indiquer en fait que c'est une manœuvre politique des démocrates pour empêcher la nation d'avancer, alors que dans d'autres circonstances, lorsqu'il y a un shutdown, le président peut dire « nous sommes tous responsables, nous devons tous trouver une solution ».
Cette solution, les États-Unis la trouveront-elles ? Selon Jérôme Jamin, il est dans l'intérêt du Congrès de ne plus trop tarder.
En fait, le shutdown, plus il dure, plus il montre que les républicains et les démocrates sont des incapables qui se chamaillent. Ils constituent un panier de crabes, incapables de marcher main dans la main dans l'intérêt du pays. Et donc, ça ne doit pas avoir lieu trop souvent parce que la plupart des députés aimeraient bien que ce soit réglé. Mais ça ne se règle pas parce que ce n'est pas parce qu'individuellement, ils voudraient tous que ce soit réglé qu'on trouve les logiques collectives qui permettent d'avoir un accord sur le relèvement du plafond de la dette.
Un accord toujours à trouver, mais le temps presse. Ce matin, quelques 2000 contrôleurs aériens manquaient à leur poste. Une situation qualifiée de chaos par le ministre américain des Transports, Sean Duffy.
Et tout de suite, les sports avec Simon Loire. Bonjour Simon.
Bonjour Axel. En football, lors de la 5e journée de Ligue des Champions, un match serré hier entre Bruges et le FC Barcelone, soldé par un nul, 3-3. Les brugeois ont été sauvés par un but contre leur camp des Catalans en fin de match. Toujours hier soir, et toujours en Ligue des Champions, Manchester City a dominé Dortmund de 4-1. L'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile 0-1 face à Atalanta, tout comme Benfica face au Bayer Leverkusen.
Ce soir, c'est la Ligue Europa qu'il faut suivre.
Exactement, c'est pas moins de 18 matchs seront disputés ce soir, parmi eux un club belge, le KRC Genk, qui affrontera le SC Braga. En tennis aussi, les masters féminins ont vu l'américaine Anna Šimková s'imposer face à Swiatek. La polonaise ancienne numéro 1 mondiale s'est inclinée en 3-7. La kazakh Elena Rybakina l'a elle emportée 6-4, 6-4 face à la russe Ekaterina Alexandrova.
Avons-nous aussi un belge en tennis ?
Nous avions un belge puisque Alexander Bloks n'a pas su s'imposer hier face à Clément Tabur à l'Open de Moselle. Il perd ce match 7-6, 6-7, 6-7. Le jeune anversois, 20 ans seulement, rappelons-le, devra donc attendre 2026 pour espérer intégrer le top 100 mondial, actuel 102e.
Et en WRC, le rallye du Japon débutait ce jeudi.
Tout à fait, l'avant-dernière manche du championnat a actuellement comme leader le finlandais Kalle Rovanperä qui a remporté la super spéciale ce matin.
La fin du championnat s'annonce donc serrée.
Exactement, les trois pilotes Toyota se tenaient dans une poignée de points, 13 exactement, avant le départ de ce rallye du Japon. Le belge Thierry Neuville pointe actuellement 5e du général, hors de la course au titre. Il faudra donc sans doute attendre la dernière épreuve de la saison pour connaître le nom du champion du monde des rallyes 2026.
Merci Simon pour ces précisions. Dans le monde de la couture, Olivier Roustin et la maison Balmain se séparent. C'est la fin de 14 ans de collaboration. Olivier Roustin s'est illustré par son style moderne et audacieux, marquant l'histoire de la mode. Hier soir avait lieu la cérémonie d'ouverture du Festival international du film de comédie de Liège. Jean Reno, star du cinéma français connu pour son rôle dans Les Visiteurs ou encore Léon, recevait sa plaque et son taureau d'or. Un reportage de Yoline Olivier.
Peu avant 18h, des lumières, un tapis rouge et surtout une plaque scintillante ornaient la rue Pont-d'Avrois, juste devant le cinéma Le Palace. Une centaine de personnes, des passants comme des fans, attendaient patiemment l'arrivée de Jean Reno.
On est arrivé vers 17h.
Dans la journée, j'ai vu qu'il y avait des choses sur le cinéma. J'ai toujours été fan de cinéma.
Oh, à 18h30, j'étais déjà là.
Jean Reno est arrivé quelques instants après la fin de la cérémonie d'ouverture du festival. C'est sous les applaudissements du public, les clics d'appareils photo et les caméras que l'acteur a reçu son taureau d'or et inauguré sa plaque.
Et Bonaparte lui dit, mais si vous mettez par terre des Napoléons en or, vous allez me marcher sur la face. Et Surcouf lui dit, qu'à cela ne tienne, sire, je les mettrai sur la tranche. Ça me fait penser à ça.
On est fiers, honorés d'être à tes côtés et d'offrir cette dalle que tu vas inaugurer.
Belge d'adoption et français le plus international, Jean Reno a traversé les époques.
Je suis français, donc Jean Reno, bah, c'est Jean Reno, quoi. Et voilà, quoi, ça fait plaisir de voir ça et que ça se passe ici à Liège.
Bah, je trouve que c'est super important et c'est normal parce que c'est quand même un monstre du cinéma français. Donc, il a tout à fait sa place ici.
Je suis contente pour lui et il la mérite bien.
Un grand artiste qui a fait une promesse au public.
Je et Liégeois que je reviendrai.
Toujours en cinéma, le Pink Screens quitte la capitale pour débarquer à Liège le temps d'une soirée. Ce festival de cinéma queer colorera de jaune et de rose fuchsia la Sauvenière. Arthur Pribrosia, membre de l'équipe organisationnelle, explique la venue du festival en cité ardente.
Le Pink Screen Festival, il existe depuis 24 ans et c'est toujours fait à Bruxelles. Et on accueille quand même un large public. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi d'en dehors de Bruxelles pour regarder les films de notre programmation. Et on s'est dit que c'était aussi chouette de pouvoir aller à la rencontre de d'autres publics, d'aller dans d'autres villes et d'amener du cinéma queer. Il y en a déjà un peu partout, hein. Le cinéma queer a de plus en plus de succès, mais d'amener notre sélection à nous dans d'autres villes. Liège était vraiment dans la shortlist. Elle s'est un peu imposée avec évidence dans nos premières décentralisations, parce que c'est une ville où il y a quand même déjà énormément d'initiatives et de culture queer.
Des propos recueillis par Sacha Baques. Au programme, Baby, en présence du réalisateur brésilien Marcelo Caetano à 20h. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, sur 48FM.